Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 137. Peut-on comprendre la mécanique quantique ? Deuxième partie, ce que Bell 1964 et Einstein 1935 ont vraiment dit. Il s'agit d'une conférence qui fut donnée par Jean Bricmont à Louvain-la-Neuve le mercredi 7 décembre 2011.
Bon, donc le deuxième cours, on m'a dit que j'avais été un peu vite la fois passée, ce qui est vrai. Et c'est parce que j'avais fait 2 heures à l'académie en allant très lentement et ici j'avais pensé aller plus vite. Mais je vais reprendre d'une part, et d'autre part, je vais couper l'exposé en deux. Je vais faire une première partie qui est purement, on va dire, scientifique et physique et mathématique, si vous voulez. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit la fois passée, enfin, je vais résumer ce que j'ai fait la fois passée. Et la deuxième partie sera purement historique. Moi, je la trouve intéressante, mais je ferai une pause entre les deux. Donc, tous ceux qui ne s'intéressent pas à la partie historique ou qui n'ont pas le temps, etc., peuvent partir. Donc, comme ça, vous n'avez pas trop de. Mais ça fera plus ou moins 2 heures. Donc, résumé du cours précédent, il y a en mécanique quantique un comportement étrange. Donc il y a un comportement étrange, on a des objets qui ont ce qu'on appelle un spin dans certaines directions. Dans la direction 1, ils ont un spin qu'on appelle down. Si on mesure la direction 2, et qu'elles sont 2 up, mettons, ou 2 down, si on remesure 1, on trouve moitié up, moitié down. Donc si quelque chose était préparé down et qu'on mesure dans la direction 2, ben, on perd l'information qu'on avait sur la direction 1, on a oublié le spin dans la direction 1. Mais si on fait une expérience de ce type-là où on injecte des spins 1 down dans une boîte qui mesure 2, et les 2 down dans un sens vont là, les 2 up vont dans un sens là, et sont renvoyés par des miroirs sur ces chemins-là, et sont d'une certaine façon recombinés ici, alors quand on recombine les chemins, on retrouve 100% de spin 1. Si on remesure le spin 1 ici, on retrouve 1 down. Donc on n'a pas réellement été oublié. Il a été oublié si on le mesure, mais il n'est pas oublié si on ne le mesure pas. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que si maintenant on insère un mur ici qui bloque un des chemins, si on insère un obstacle, on sait par conséquent, si on détecte rien, c'est important de voir, c'est quand on détecte quelque chose, ben la particule est arrêtée et on l'oublie. Mais si on détecte rien, on sait que c'est l'autre chemin qui a été suivi, et par conséquent on retrouve 50% de 1 up et 50% de 1 down. La cohérence, si vous voulez, entre les deux chemins a disparu, donc l'obstacle semble influencer la particule qui suit le chemin sur lequel l'obstacle ne se trouve pas. On a déjà un aspect, puisque aujourd'hui je vais parler de la non-localité, on a un aspect qui peut paraître non-local, dans le sens que si les chemins sont très longs et très séparés, et bien cette particule ici passe très très loin de l'obstacle, et néanmoins l'obstacle semble affecter son comportement. Et c'est ça la question qu'on veut analyser. Il existe un formalisme qui permet de calculer ou de prédire ces phénomènes. Le formalisme est le plus couronné de succès de toute l'histoire des sciences, et c'est un formalisme tout à fait remarquable. La question n'est évidemment pas de critiquer le formalisme, au contraire, c'est parce que le formalisme marche qu'on se pose des questions. Personne ne se pose de questions philosophiques sur la loi de Hooke, parce que tout le monde sait que c'est une approximation. Mais évidemment, la question, c'est précisément parce qu'il marche qu'on se demande ce qui se passe exactement. Alors, ce formalisme utilise des règles différentes si on fait des mesures et si on n'en fait pas. Comme j'ai expliqué, on a l'impression que les mesures affectent le comportement de la particule, et donc on a introduit des mesures, et le terme mesure n'est pas défini à l'intérieur du formalisme, il est un deus ex machina, en tout cas dans les exposés habituels. Si on essaye de décrire le processus de mesure de façon quantique, ce qui a été fait par exemple par von Neumann, on obtient des superpositions d'objets macroscopiques. C'est-à-dire, dans le formalisme, ça je ne vais pas le répéter, mais on a la superposition, si vous voulez, on dit la particule, mettons dans ce cas-là, est dans un état où elle est avec le spin down et elle suit ce chemin-là, et avec le spin up et elle suit ce chemin-là. Et la superposition de ces états paraît étrange, incompréhensible, mais on peut dire, voilà, que savons-nous des particules, mais néanmoins on pense que les objets macroscopiques sont dans des états bien définis. Et pour donner un exemple très ridicule, comme disait Schrödinger, on peut coupler l'appareil à un chat qui alors se trouve dans un état chat vivant et chat mort, tant qu'on ne regarde pas, mais évidemment on a l'impression que le chat est soit vivant, soit mort, même si on ne regarde pas. Alors je dis ce qui est wanted, mais je n'ai pas dit vivant ou mort, mais wanted, une théorie quantique sans observateur. On voudrait une théorie quantique où l'observateur ne joue pas un rôle fondamental, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi une théorie physique fondamentale ferait référence dans son formalisme même à quelque chose d'aussi particulier, d'aussi anthropocentrique et d'aussi centré sur quelques endroits qu'on appelle laboratoires, qui sont assez rares sur Terre finalement, qui n'existent qu'une partie du XXe siècle, dans une théorie physique fondamentale qui est supposée gouverner toutes les lois de l'univers. Mais est-ce possible? Alors la question devient subtile, et c'est là que j'ai peut-être été trop vite la fois passée, je vais essayer de le répéter lentement. En effet, une interprétation naïve des probabilités des résultats de mesure, comme révélant des propriétés, peut-être inconnues, peut-être incontrôlables, peut-être imprévisibles, ça je m'en fiche, parce que le chaos classique nous a habitués au fait que tout n'est pas prévisible, etc., etc. Ça, c'est pas ça le problème. Mais préexistant du système, donc la particule aurait des propriétés, comme le spin-up dans une direction, ou le spin-down dans une autre direction, est intenable à cause du théorème que je résume comme étant Bell-Cockens-Becker. Il a été trouvé d'une certaine façon par Cockens-Becker, d'une autre façon par Bell, sur les variables cachées. Et je répète ce que le théorème dit, mais il y a toutes sortes de variantes, je simplifie un peu, mais je vais l'exprimer de cette façon suivante. Soit des matrices de spin, des matrices de Pauli, si vous voulez, dans la direction X et Y, j'en prends une paire, donc j'en prends une pour une particule 1 et une autre pour une particule 2, dans la direction X et Y pour des particules 1 et 2. Alors, il est impossible d'assigner simultanément à chacune de ces variables une valeur V allant plus ou moins 1, c'est-à-dire que quand on mesure, en mesure entre guillemets, parce que comme je l'explique, ce ne sont pas des vraies mesures, mais si on mesure ces opérateurs, comme on dit, dans le langage habituel, on trouve toujours des valeurs propres plus ou moins 1, et donc si on révèle des valeurs préexistantes, il faut que d'une certaine façon, le système ait ces valeurs plus ou moins 1, pour les quatre objets, de façon à ce que la règle, qui est une règle quantique, V de AB égale V de A fois V de B, quand A et B commutent, s'applique et respectée pour toutes les matrices A et B, obtenues en multipliant entre elles les matrices sigma, les matrices sigma alpha I. Donc on prend ces matrices, on fait les combinaisons, ça je ne vais pas le répéter, c'est la démonstration correcte est dans les notes. On fait des multiplications entre elles, et on arrive à une contradiction, en supposant que des valeurs existent et qu'elles satisfassent cette règle. Alors façon de penser à ces valeurs, c'est très facile. Vous avez tous eu l'étudiant, enfin ceux qui sont profs, en tout cas des étudiants, je ne sais pas, mais ceux qui sont profs ont tous eu l'étudiant à qui on pose une question qui tombe juste dans le chapitre qu'il n'a pas étudié. Vous avez aussi l'étudiant qui n'étudie qu'un chapitre et qui a de la chance et on lui pose juste la question dans le chapitre qu'il a étudié. Mais vous pouvez aussi imaginer le bon étudiant qui a des réponses à toutes les questions. Mon idée, c'est que la particule, évidemment, elle ne sait pas à l'avance quelle question, quelle mesure on va faire, et donc elle doit avoir une réponse à toutes les mesures possibles. Ça, c'est l'idée de valeurs préexistantes. En particulier, on pourrait mesurer ces valeurs sigma x1, etc., sigma x2, et bon, n'importe laquelle d'entre elles, ou n'importe quel produit, ou n'importe quelle combinaison de produits, de façon à ce que cette règle V de AB fois V égale V de A fois V de B existe. Et donc, s'il y a des valeurs préexistantes, ça veut dire qu'elle a des valeurs préexistantes, c'est pas comment on va l'interroger, c'est pas quelles mesures on va faire, et si les mesures révèlent les états préexistants du système, il faut qu'il y ait des réponses à toutes ces questions données à l'avance, si vous voulez, et ce que le théorème de Cockens-Becker-Bell dit, c'est que c'est mathématiquement impossible, il y a une contradiction simplement algébrique, d'accord? Et donc ça c'est assez intéressant. Évidemment vous pourriez imaginer que si les variables existaient, si une telle fonction existait, il pourrait en exister plusieurs, et dans une expérience, vous auriez un assignement donné de valeur, dans une autre expérience, un autre, et puis vous auriez une donnée statistique. Il y a des tas d'interprétations de la mécanique quantique qui sont en fait statistiques, et les interprétations statistiques sont toutes réfutées par ce théorème. Ce n'est pas trivial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « mais ce n'est pas très étonnant ». Vous avez des valeurs données, et puis quand vous mesurez, évidemment, mettons la direction de spin 1, dans la direction 1, eh bien, vous perturbez le système dans la direction 2 et donc vous perdez l'information que vous aviez sur la direction 2. Si on pense comme ça, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vois même pas pourquoi les gens... Parfois, les gens présentent la mécanique quantique dans ce langage, la présentent comme surprenante et je ne trouve jamais rien de surprenant à ça. Ce qui est réellement surprenant, c'est qu'on ne peut même pas penser à ces valeurs comme préexistantes. Ça, c'est ce qui est étonnant. De façon cohérente. Alors évidemment, j'ai eu plusieurs objections, plusieurs discussions la semaine passée. Bon, il y en a une, c'était technique, c'est que j'avais oublié de mettre cette règle comme V de AB égale. Bon, ça c'est un détail, mais Philippe Ray m'a par exemple posé la question, il m'a dit, mais évidemment ces valeurs ne sont pas des valeurs quantiques. Parce qu'en mécanique quantique, il y a ces opérateurs-là ne commutent pas tous entre eux, le X et le Y ne commutent pas entre eux, et donc on a des valeurs, si vous voulez, on peut avoir des... oups, je ne sais pas ce qui se passe là. Oui. Bon, on a des valeurs, ce ne sont pas les valeurs intrinsèques à la mécanique quantique, non. C'est une façon de comprendre la mécanique quantique au-delà du formalisme. Le formalisme vous donne une distribution de probabilité. Est-ce que vous pensez à cette distribution de probabilité comme des probabilités de quelque chose qui est déjà là? Vous jetez un dé, ben vous avez une face, vous ne savez pas quelle face avant de regarder, vous pensez qu'il est sur une face, vous pensez que les faces vous donnent une probabilité un sixième, mais chaque jeté dé lui-même, il a une valeur donnée. Et ce serait la même chose. Vous interpréteriez les valeurs quantiques comme ça. Vous pourriez vous dire aussi, pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement prendre les résultats de mesure? Après tout, si je prends un système individuel, chacune de ces variables-là va, si je mesure un des spins, me donner la réponse plus ou moins 1. Pourquoi je ne peux pas simplement prendre ça? Mais parce que vous ne pouvez pas mesurer toutes ces valeurs-là simultanément. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez mesurer simultanément A, B et A fois B quand elles commutent. Et donc la règle-là doit être satisfaite. Et donc, par conséquent, vous arrivez à une contradiction avec la simple supposition que ces choses existent, et je pense que c'est un théorème profond. Il n'est pas très très compliqué à démontrer dans la version actuelle, mais les premières démonstrations l'étaient, et c'est un théorème assez profond. Généralement inconnu. Il passe en dessous du radar de la plupart des discussions sur la mécanique quantique, et il me semble qu'il était important, et comme je dis, même le spin n'est pas réel, c'est-à-dire même le spin n'est pas une propriété intrinsèque du système, je dis même le spin parce que le spin est souvent considéré comme l'archétype même des propriétés typiquement quantiques. Alors, maintenant je vais vous faire un petit tour de passe-passe. Un autre truc qui est totalement ignoré, mais qui est dans la littérature, ça a été discuté aussi par De Broglie, ce sont les boîtes d'Einstein. Alors je ne sais pas si vous avez probablement jamais entendu parler des boîtes d'Einstein, mais ça va peut-être déjà vous convaincre qu'Einstein n'était pas si bête. Non, mais en mécanique quantique, tout le monde est d'accord qu'il s'est complètement trompé, qu'il n'a rien compris, etc. Bon. Moi, je pense que c'est lui qui a tout compris, mais enfin bon. Donc, on prend une boîte dans laquelle on met une particule. Bon, c'est une expérience de pensée, mais il y a une particule. Et elle trouve dans la boîte B, dans laquelle on insère une barrière qui coupe la boîte en deux. On peut mettre une barrière qui, d'une certaine façon, coupe la boîte en deux parties étanches. Je vous mets une expérience de pensée, mais l'état de départ, c'est simplement B. Ça veut dire la particule dans la boîte B. Et l'état de la particule devient la superposition de la particule dans la boîte B1 et de la particule dans la boîte B2. Une fois qu'on a coupé en partie étanche, on prend une partie de la boîte, on envoie une demi-boîte, on l'envoie à New York et l'autre on l'envoie à Tokyo. Et puis on ouvre les boîtes. Alors qu'est-ce qui se passe? Les deux demi-boîtes résultantes sont envoyées, sont séparées, envoyées aussi loin qu'on veut. On ouvre une des boîtes, mettons B1, et on n'y trouve pas la particule. Donc on sait qu'elle est dans B2, classiquement. Mais c'est important de voir qu'avant, elle était dans un état superposé. Elle n'était pas dans B1 ou dans B2, parce que l'état quantique, c'est la superposition de la particule dans B1 et la particule dans B2. C'est une superposition. Ça n'a pas, a priori, d'interprétation classique comme probabilité classique, comme vous mettriez une boule de billard dans une des boîtes, vous mélangez et puis vous envoyez les deux parties séparées. Non, il faut respecter le formalisme quantique ultime. Alors, par conséquent, on sait qu'elle est dans B2. L'état se réduit instantanément de façon non locale. On ouvre la boîte B1, on n'a rien. C'est une mesure, donc l'état devient la particule dans B2. Ça, c'est les règles. Et si on ouvre la boîte en 2, on trouve la particule, bien sûr. Mais quelque chose d'un peu bizarre, c'est que ce truc se fait, si vous voulez, là, on a déjà quelque chose qui se fait non localement. Parce que la boîte B1 est à Tokyo, la boîte B2 est à New York. On ouvre la boîte B1 à Tokyo, on ne trouve rien, et du coup, pouf, la particule se condense alors qu'elle est dans un état superposé. Elle se condense non localement et apparemment instantanément. Alors je ne sais pas si vous avez jamais pensé aux boîtes d'Einstein, probablement pas parce qu'on n'en parle jamais, mais je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez vraiment que la particule n'est dans aucune des deux boîtes avant qu'on ouvre? Si vous êtes un orthodoxe au point de vue quantique, vous êtes obligé de dire oui, ou bien vous pensez que d'une certaine façon, elle est dans une boîte, auquel cas vous êtes commis à quelque chose qui, comme je dis, est un gros mot dans le département de physique, à la croyance aux variables cachées. C'est-à-dire, vous croyez qu'il y a des variables qui précisent l'état du système au-delà de la fonction d'onde. Parce que la fonction d'onde, c'est la superposition. Personne ne peut contester ça, il n'y a rien d'autre.
D'accord ? Mais si vous croyez qu'elle est quelque part, ça veut dire qu'il y a une variable supplémentaire qui décrit l'état du système. On appelle ça des variables cachées. Et comme j'ai dit, c'est un mot que vous n'êtes pas supposé dire tout haut à la cafétéria dans un appartement physique. Parce qu'on considère ça comme impensable. Einstein avait soulevé le problème en 1927 au congrès Solvay. Il avait déjà proposé, il avait déjà dit ça dans une expérience de diffraction. Si vous voulez, vous avez une particule incidente représentée par une fonction d'onde qui a un comportement ondulatoire après être passé par le trou et qui s'étale, si vous voulez, sur le demi-cercle. Ben, j'ai dessiné en deux dimensions, mais sinon c'est une demi-sphère, évidemment, en trois dimensions. Dans cette situation, la fonction d'onde s'étale sur le demi-cercle. Mais quand on mesure la particule, on la trouve toujours en un point donné, mettons là ou là. Einstein a dit comment c'est possible, si elle n'est pas déjà quelque part, c'est-à-dire s'il n'y a pas des variables qui décrivent le système plus précisément que le fait la fonction de l'onde, comment se fait-il qu'elle se condense en un point? Pas de réponse. Alors posons la question autrement, est-ce que l'état quantique est physique ou épistémique? C'est-à-dire, physique, ça voudrait dire qu'il décrit l'état, comme on le dit tout le temps, la description complète de l'état du système, donc il décrit le système. Ou épistémique, est-ce qu'il décrit la connaissance qu'on a? Ce qui pour moi veut dire qu'il y a d'autres variables qui décrivent le système plus précisément. Exactement comme les probabilités classiques. Hein, la probabilité qu'un dé est sur une des six faces, quand le dé est retombé, n'est pas la description complète du dé. La description complète du dé, c'est la face sur laquelle il se trouve. Enfin, la face qui est vers le haut. D'accord? Donc c'est pas une description complète. Je dis si épistémique, la mécanique quantique est par définition incomplète, c'est ça ce que le mot veut dire. Il existe des variables cachées qui compléteraient la description quantique et qui ici détermineraient dans quelle boîte se trouve la particule avant qu'on l'ouvre ou à quel endroit du demi-cercle elle se trouve, ou de la demi-sphère. Mais les théorèmes sur l'inexistence des variables cachées rendent douteuse la possibilité d'une telle complétion. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Et en fait, je vous montrerai au troisième cours que c'est possible. Mais attendons un petit peu, envisageons donc la possibilité de la non-localité, c'est-à-dire de l'action à distance. Alors là, qu'est-ce que c'est que la non-localité? Ben, c'est le contraire de la localité. Et qu'est-ce que c'est que la localité? C'est pas l'action à distance. Et donc, je vais préciser ce que c'est que l'action à distance. Et j'aurais dû vous suggérer de relire des manuels de mécanique quantique assez bien connus qui sont Les Sept Boules de Cristal et le Temple du Soleil. Je suppose que la plupart des gens sont familiers avec cette histoire. Donc, il y a une histoire, si vous voulez, dans Tintin, où vous avez des explorateurs qui se trouvent dans un hôpital. Et ils ont été touchés par des boules de cristal. Et à des heures données, ils se réveillent et ils sont pris de douleur. Et le mystère, bon, ça paraît tout à fait mystérieux, et le mystère est résolu dans le Temple du Soleil, où Tintin découvre dans une forêt amazonienne, une forêt d'Amérique latine, une civilisation inca, où on utilise en fait ce qu'on appellerait une sorte de vaudou, c'est-à-dire qu'il y a des statuettes représentant les explorateurs, et quand le grand prêtre pique les statuettes, les gens en Europe sont pris de douleur. D'accord ? Ça, c'est un exemple d'action à distance. Comme il y en a en mécanique quantique, à une nuance près. Et donc, ça c'est la fin de l'histoire où Tintin convainc le grand prêtre de jeter les statuettes au feu, et alors les gens en Europe se retrouvent instantanément mieux. Et donc les propriétés dans l'affaire de Tintin sont au nombre de 4. D'abord, l'action est instantanée. C'est au moment où on pique la statuette que la personne a mal en Europe. C'est instantané. C'est à portée arbitrairement longue. En principe, on pourrait imaginer que les explorateurs soient sur la Lune ou sur Mars ou une autre galaxie, la même chose se passe. L'effet ne décroît pas avec la distance, dans le sens que ce n'est pas comme la loi de la gravitation universelle, là, on pique et il y a cette douleur. Et c'est individué parce que c'est une statuette bien donnée qui correspond à un explorateur, et si vous détruisez une statuette. Et ça permet de transmettre des messages, évidemment, parce que vous pourriez faire un protocole tel que, à chaque minute, vous piquez ou vous ne piquez pas. Et suivant que vous piquez ou ne piquez pas, la personne ressent quelque chose ou pas. Et donc, par conséquent, vous transmettez une information, parce que comme ça, vous envoyez une suite de 0 et de 1. Et ça, c'est n'importe quel message, peut-être que bien 0 et 1. Alors, si on regarde l'histoire de la physique, j'ai pas le temps de faire ça en détail, mais la gravitation de Newton inclut 1, 2, A et 4. D'accord ? Dans la gravitation de Newton, il ne faut pas oublier que la gravitation est une force instantanée à distance, ce qui embêtait fort Newton. Elle a la propriété 2A parce qu'elle est rapportée arbitrairement longue, mais elle décroît avec la distance comme 1 sur R carré. Elle n'est pas individuée parce que tous les corps dans l'univers sont agités de la même façon. On agit sur tous les corps de la même façon. Et ça permet évidemment de transmettre des messages. C'est-à-dire que quand je bouge mon bras, j'affecte instantanément, en affectant la distribution de masse dans l'univers, la position de tous les corps dans l'univers, mais de façon très peu perceptible. Et si je le faisais de façon perceptible, alors évidemment en bougeant, en ne bougeant pas mon bras, et si on était suffisamment précis dans les détections, ben on verrait qu'il y a un effet. Alors c'est un truc qui embêtait les physiciens, qui a qui embêtait Newton en particulier. Et la physique post-newtonienne s'est fondée sur l'idée de champs électromagnétiques ou gravitationnels qui essaient de se propager dans le vide, mais à vitesse finie, à vitesse de la lumière, mais finie, et qui essaient d'éliminer justement la propriété 1 et garde la propriété 2A, mais pas 2B, et 4. D'accord ?
Et donc ça, c'est le... Comment dirais-je ? Alors la question, et c'est ça ce que montre la mécanique quantique, c'est qu'il y a des systèmes...
Qu'est-ce
qui se passe là ? Je connais rien à ce truc-là. Bon, la mécanique quantique a la question, c'est existe-t-il des systèmes avec la propriété 1 à 3,
c'est-à-dire instantané, à portée arbitrairement longue, ne décroissant pas dans la distance et individué, mais
ne permettant pas de transmettre des messages, parce que envoyer des messages instantanément, ça c'est en général la mésinterprétation de la mécanique quantique que vous trouvez dans certaines librairies pas très recommandables de pseudosciences, de mysticisme, etc. Parce qu'en général, alors, ces gens utilisent l'idée que je vais développer pour dire qu'on peut transmettre des messages instantanément, et à cause de la relativité, si on peut envoyer des messages instantanément, on peut les envoyer dans le passé, ce qui évidemment a tous les effets paradoxaux que vous pouvez imaginer. Et ça, ce n'est pas autorisé par la mécanique quantique. Alors maintenant, venons à la non-localité quantique et au théorème de Bell. Parce que Bell a démontré, comme je dis, je vais d'abord l'expliquer tel que Bell en fait l'a expliqué, et puis par analyse de texte, je vais vous montrer que Bell a vraiment dit ça, mais ça c'est une partie purement historique, et qu'il a été massivement mécompris. Bon, mais ça c'est une autre affaire. Alors la non-localité, cette slide-là est essentielle, d'accord ? Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Alors vous faites des objections maintenant, ou bien vous n'en faites pas. Si vous en faites, j'y réponds. Si vous n'en faites pas, alors vous êtes cuit. Vous êtes fait, comme vous dire à la police. D'accord ? Donc, c'est le truc essentiel. Vous avez X et Y, qui sont deux personnes. Lui et moi, par exemple, on sort par des portes différentes de la pièce. Et à la sortie, on nous pose une question. Mais la question est un chiffre. Ce n'est pas une question significative. C'est 1, 2, 3. On vous donne un chiffre auquel vous devez répondre 1 ou 2. Oui ou non. D'accord ? Et alors, quand on regarde... on fait l'expérience un million de fois et on se retrouve dans la pièce. On peut se parler, on peut se mettre d'accord sur tout ce qu'on veut, mais quand on sort, on ne peut pas communiquer de l'un à l'autre. Ça, c'est la seule règle. Et quand on pose, alors on pose des questions différentes, une fois 1, une fois 2, une fois 3, mais on fait des millions de fois, donc toutes les questions sont posées et chaque fois on doit répondre oui ou non. C'est tout. C'est très embêtant comme jeu, mais on fait ce jeu un million de fois. Ok ? Ou 10 millions de fois. Et la question, c'est: chaque fois que vous posez la même question, des deux côtés, vous avez la même réponse. Donc chaque fois que la question est de deux côtés, d'une fois c'est 1 d'un côté, l'autre c'est 2, mais il arrive que ce soit tous les deux 1, tous les deux 2. Les questions, peu importe, elles sont produites par des générateurs de nombres aléatoires, si vous voulez, je m'en fiche, mais de toute façon, toutes les possibilités apparaissent si vous le faites un million de fois, et chaque fois que c'est la même question, on répond de la même façon. Alors la question que je vous pose à vous, c'est, est-ce que, pour moi, la seule possibilité, c'est que les réponses soient prédéterminées, ou qu'il existe une forme de communication, mais j'ai interdit les communications. Donc je dis que la seule façon pour qu'ils donnent tout le temps la même réponse quand on leur pose la même question, puisqu'ils ne connaissent pas les questions à l'avance, c'est exactement comme l'étudiant qui connaît les réponses à toutes les questions, parce qu'ici on répond correctement, on répond n'importe comment, on répond oui ou non, on répond une fois oui, une fois non. Ça peut être aléatoire, mais c'est chaque fois la même réponse. Alors je dis qu'il faut qu'elles soient prédéterminées. Mais la prédétermination, ça peut être oui à toutes les questions. On peut dire, voilà, on se met d'accord pour toujours dire oui, ça sera OK. On dira aussi oui quand c'est 1 et 2, mais je veux dire, la question, c'est: est-ce que vous imaginez un mécanisme, ça j'aime bien comprendre, vous imaginez un mécanisme qui permet de reproduire cet aspect d'expérience sans que les réponses soient prédéterminées? Alors, comme je ne suis pas sûr que je me fais comprendre, parce que ça, c'est le point essentiel, et c'est l'incompréhension essentielle, je vais quand même peut-être m'arrêter une seconde pour voir s'il y a quelqu'un qui... soit à une autre idée en tête, soit à une question sur ce que je viens de dire. C'est pas clair. Parce que parfois, il y a des incompréhensions. Les réponses sont toujours les mêmes quand on pose la même question. Et c'est des chiffres, hein, c'est pas des signes. 1, 2, 3, des 1, 2, 3, des oui, non. D'accord ? Mais on peut pas dire, si c'est 1, si c'est 2 là et 2 là, on peut pas l'un dire oui et l'autre non. On doit dire tous les deux oui ou tous les deux non. Mais la même chose.
Juste que je n'ai pas compris dans ton protocole, les deux individus se revoient après chaque question?
Oui, ils se revoient après chaque question. Et ils se mettent d'accord s'ils veulent, ils peuvent se mettre d'accord sur une autre stratégie, c'est pas ça le problème. Mais je dis qu'à chaque coup, si tu veux, on pourrait, ce serait très facile, on se met d'accord, on dit si c'est la question 1, on dit tous les deux oui, si c'est la question 2, on dit tous les deux non, et la troisième, on dit tous les deux oui. D'accord ? On fait ça. Et puis on refait l'expérience et on prend un autre protocole. Mais je vais expliquer qu'il n'y a que 8 possibilités, mais on peut se mettre d'accord sur ces 8 possibilités. Le théorème de Bell montre que c'est impossible. Mais je voudrais savoir si d'abord on est d'accord que la localité, c'est-à-dire l'absence de communication, implique que on a nécessairement... Tu vois, c'est ça. Donc ce que j'appelle la non-localité, la localité, c'est qu'il n'y a pas de communication entre les deux personnes. Il n'y a pas d'action à distance entre les deux personnes. Il n'y a pas d'interaction entre les deux personnes. Il n'y a pas, comme on dit parfois, de téléphone Bell. Il n'y a pas de téléphone communiquant entre les deux. D'accord ? Si on accepte cette hypothèse, moi, il me semble que les valeurs doivent être prédéterminées. Alors, je vais encore donner un exemple qui est emprunté d'un article de Bell. Ça s'appelle « Les chaussettes de M. Bertman et la nature de la réalité ». Et c'est un article qui est massivement mécompris, de nouveau, comme je l'expliquerai après, où il montre un monsieur qui s'appelait Bertman, qui travaillait avec lui au CERN, et qui avait toujours des chaussettes de couleurs différentes. Et alors, il dit, voilà, si on voit qu'une chaussette est rose, on sait que l'autre n'est pas rose. Et comme dit, on apprend instantanément qu'elle n'est pas rose. Et, comme dit Bell, ça ne rend pas compte des goûts, mais ça n'a rien de mystérieux. La couleur des chaussettes existe, parce que la couleur des chaussettes existe indépendamment du fait qu'on la regarde ou pas. Mais que diriez-vous si la science vous affirmait que la couleur des chaussettes n'existe pas avant qu'on les regarde, et que néanmoins le fait de regarder une chaussette sur un pied vous permet de connaître instantanément la couleur de la chaussette sur l'autre ? Et qui de plus resterait vrai si les deux chaussettes, qui ne doivent pas être attachées aux pieds, étaient aussi éloignées l'une de l'autre que l'on veut. C'est-à-dire que je prends les chaussettes, je vous dis que la science montre qu'il n'y a pas de couleur avant que vous ne regardiez, ce qui est dans l'esprit de ce que raconte la mécanique quantique. Je prends la paire de chaussettes, j'en envoie une à Tokyo, l'autre à New York. À Tokyo, on regarde la chaussette, on voit qu'elle est rose, on sait que l'autre n'est pas rose, ou mettons qu'elles sont roses et vertes, peu importe, on sait qu'elle est verte. D'accord ? Ça n'a rien de mystérieux si les couleurs sont là, et ça n'a rien de mystérieux avec les chaussettes. Mais toute l'idée de Bell, c'est de montrer qu'en mécanique quantique, ce n'est pas le cas des chaussettes, parce que dans les chaussettes, les couleurs préexistent. Exactement comme j'ai dit, si les variables préexistent, il n'y a rien de mystérieux. Donc, reprenons l'exemple des trois questions. Il y a X qui va à la porte A et Y à la porte B. X c'est moi, Y c'est monsieur. Il y a trois questions et les réponses est oui, non. Quand on pose la même question des deux côtés, on obtient toujours la même réponse, oui ou non. Je dis, il y a cette on appelle ça une corrélation à distance, qui n'a rien de... La corrélation n'a rien de mystérieux. C'est comme des chaussettes qui ont la même couleur ou pas la même couleur. C'est plus simple de penser aux chaussettes ordinaires qui ont la même couleur, parce que si vous ne connaissez pas la couleur, vous découvrez la couleur, vous connaissez la couleur de l'autre, bon. Mais la couleur préexiste. Je dis que s'il n'y a aucune forme d'action à distance, alors il existe des valeurs prédéterminées qui sont aléatoires, si vous voulez, ça c'est pas important, elles peuvent être toujours les mêmes ou différentes, comme la couleur des chaussettes, qui sont ce qu'on appelle des variables cachées, parce que ces variables ne font pas partie du formalisme quantique. Par définition, c'est ce qu'on appelle des variables cachées, que je note VA de alpha, VB de alpha, où alpha c'est les questions 1, 2, 3, et A et B c'est les valeurs associées aux portes A et B, ou aux personnes X et Y qui vont vers les portes A et B. D'accord ? Ça c'est la partie Einstein-Podolsky-Rosen de l'argument. Article aussi massivement mécompris, de 1935. Et Einstein, Podolsky et Rosen ont dit si le monde est local, ces variables doivent exister, donc la mécanique quantique n'est pas complète. Comme raisonnement, c'était parfait. Vous venez de l'accepter vous-même parce qu'on n'a pas protesté. Je vous ai donné l'argument EPR dans une version réécrite par Bohm, mais peu importe. Ça, c'est l'argument EPR, oui.
Qu'est-ce qui change dans l'expérience si on pose seulement deux types de questions au lieu de trois ? Quoi ?
Trois.
Au lieu de deux. Ça change dans...
Ben, je pense que je n'arrive pas à une contradiction avec deux, mais je pourrais... Oui, je pense que j'arrive pas à la contradiction qui va arriver. Mais évidemment, s'il y en avait deux, pour l'instant, ça ne change rien. Pense même au cas où on pose toujours la même question. Quoi. Déjà, si on pose toujours la même question, si les réponses varient, mais sont toujours les mêmes, ben, elles sont prédéterminées aussi. D'accord ? Il suffit de penser à une seule question. Les trois questions viennent plus loin. Quoi. Le fait que je prends trois questions plutôt qu'une vient plus loin. Nous allons voir dans une minute. Alors, je dis que c'est... Donc, ça a été fait en 35. Cet argument était impeccable. Bohr y a répondu dans une façon que j'expliquerai dans la deuxième partie, qui à mon avis ne résout rien, mais a généralement été compris comme ayant réfuté Einstein. Si vous lisez la plupart des livres, si vous écoutez les commentaires, etc., la plupart des gens disent « mais Bohr a répondu à Einstein ». Vous verrez comment Bohr a répondu, vous verrez que ça n'y répond pas à mon avis. Bon. Et ça c'est en 35. Donc les gens oublient cet argument, le mécomprennent, pensent qu'il a été réfuté. Cette partie-là, s'il n'y a pas d'action à distance, alors les variables existent.
Et cette supposition à elle seule est contredite par des observations, en fait, quand les questions sont différentes. Parce que maintenant, on pourrait dire, oui, mais de temps en temps, on pose la question 1 et l'autre la question 2 ou 2 et 3, etc. Et quand on pose ces questions-là, il y a aussi apparemment des statistiques des réponses. Et les statistiques des réponses quand les questions sont différentes sont incompatibles avec l'existence des variables des valeurs préexistantes. Ça, c'est le théorème de Bell, 64, 30 ans plus tard. À ce moment-là, évidemment, EPR a été oublié. Et quand Bell arrive, on ne comprend pas Bell parce qu'on n'a pas compris EPR. Mais quand vous combinez les deux, les choses sont claires et relativement dramatiques. Alors, je vais vous donner la preuve, parce que c'est très simple. Il y a trois questions, 1, 2, 3. Il y a deux réponses, oui, non. Si les réponses sont données à l'avance, il existe 8 possibilités pour l'ensemble des réponses aux questions. Je donne 1, 2, 3. On peut se mettre d'accord pour dire 1, on dit oui, non, etc. Vous voyez les 8 possibilités. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Dans tous les cas, vous voyez qu'il existe au moins 2 questions avec la même réponse. Dans tous les cas. Par conséquent, par simple addition des fréquences, la fréquence des cas où la réponse en 1 est égale à la réponse en 2, plus la fréquence de réponse en 2 est égale à la réponse en 3, plus la réponse en 3 est égale à la réponse en 1, est plus grande ou égale à 1, parce que la probabilité, si vous voulez, mais la même chose avec la fréquence de l'union des trois événements est nécessairement 1, puisqu'il y a toujours 2 réponses qui sont les mêmes. D'accord ? Donc il faut toujours que la réponse en 1 soit celle de 2, ou 2 en 3, ou 3 en 1, parce que dans tous les cas, vous voyez qu'il y a toujours, dans tous les cas, donc, quelle que soit la distribution de probabilité que vous avez là, quelle que soit la fréquence empirique que vous avez là, elle doit respecter cette règle-là. Mais, dans certaines expériences, et je vais expliquer les expériences dans un moment, la fréquence de la réponse en 1 égale la réponse en 2 est la même que 2 en 3, la même que 3 en 1, et elles valent 1 quart toutes les 3. Donc, la somme de 3 fois 1 quart, ça fait 3 quarts, qui n'est pas plus grand que 1. Là-dessus, il n'y a pas de contestation. Et donc, le tour est joué. Le tour est joué, c'est-à-dire que le monde est non local. D'accord ? Il faut comprendre la logique. Alors, la logique vaut peut-être la peine d'être écrite pour que la garde, donc vous allez noter ça sans doute. Les prédictions empiriques dans la mécanique quantique plus l'hypothèse de localité implique qu'il existe les variables dites cachées, c'est-à-dire les valeurs préexistantes. Ça, c'est le PR. Raisonnement correct, à mon avis. Alors, ça, c'est Bell. La mécanique quantique implique qu'il n'y a pas ces variables cachées parce qu'elles n'ont aucune distribution possible, donc elles n'existent pas. C'est comme je l'ai dit précédemment. Si vous combinez les deux, mais vous voyez que mécanique quantique plus localité implique une contradiction. Si la mécanique quantique est vraie, la localité est fausse. Alors que veut dire si la mécanique quantique est vraie? Ça veut simplement dire les données expérimentales qui apparaissent dans ces expériences-ci. La mécanique quantique peut être fausse pour l'univers, tout peut être faux, sauf les données expérimentales qui elles sont bien confirmées. Donc mécanique quantique, c'est des guillemets. Hein, ça veut dire les faits empiriques liés à ces mesures. Rien que ça. Rien que ça. Et donc le monde est non local, il y a une forme d'action à distance malgré ce qu'on peut espérer. Alors le dispositif expérimental tel que présenté par Mermin, je suis sûr que les expérimentateurs dans ça vont s'étrangler, mais de façon abstraite, c'est ceci. Vous avez un appareil au milieu avec un bouton, vous poussez sur le bouton, il y a quelque chose qui part, on ne sait pas quoi. Il y a quelque chose qui part et là, vous avez des appareils d'enregistrement à droite et à gauche, en A et en B. Avec trois, vous avez un bouton sur trois positions possibles, ça c'est les trois questions, 1, 2, 3, et vous avez une lumière rouge et verte. Ça c'est les oui-non, et tout ce qui se passe, c'est que vous poussez sur le bouton, vous mettez, et vous regardez ce qui se passe avec les lumières rouges et vertes. Et vous enregistrez les résultats en fonction de ce qui a été fait des deux côtés, et puis vous comparez, et vous avez quelque chose comme ça. Une liste de chiffres où j'ai souligné, si vous voulez, bon, j'ai souligné, enfin, oui, c'est pas très visible, mais bon... c'est pas très important, c'est-à-dire que ce qui apparaît en gras, c'est que quand on pose la même question des deux côtés, la même réponse, et j'ai souligné les exemples où on a des accords, si vous voulez, entre les réponses aux deux questions. Les couleurs sont en accord quand on pose des questions différentes,
qu'on a les mêmes réponses. Alors, la description quantique de tout cela, parce que je veux quand même expliquer ça, ça je dois pas faire l'académie, mais comment ça marche en mécanique quantique. Ce qui se passe, c'est qu'on prend deux particules, comme on dit dans un état cinglé de spin. Ça veut dire qu'on considère que la particule qui a vers A et en B se trouve dans un état qui est une combinaison, qui est de nouveau une somme, avec un signe en moins, donc une superposition, d'un état où le spin est 1 dans la direction 1, il est up en A, et down en 1 aussi, mais en B. Plus, enfin moins, disons, l'inverse.
D'accord.
Alors cet état-là a la propriété d'être invariant sur rotation. Alors, ce qui fait que si on prend la direction 2, on va prendre une direction 2, j'expliquerai les directions dans un moment, hein, on prend trois directions dans lesquelles on mesure le spin.
Donc j'avais fait deux directions précédemment, x et y, maintenant je vais en prendre trois.
Et c'est la même configuration, si vous voulez, avec 2 ou avec 3. Vous avez 2 up et 2 down en B, ou bien 2 down en B et 2 up, 2 down en A, pardon, et 2 up en B, et c'est la même chose avec 3.
Alors, si on prend la description quantique usuelle, si on mesure le spin en direction 1 en A, et qu'on voit up, l'état est réduit, ça c'est la règle usuelle de la mécanique quantique, et il devient A1 dans la direction up et B1. Si on voit par contre l'état down, l'état devient ceci.
Mais, et c'est la même chose si on mesure dans la direction 2 ou 3, on a à chaque fois la réduction de l'état quantique. Mais on a alors modifié l'état non localement en B. Oui, parce que il ne faut pas oublier que je pourrais très bien considérer une situation où je ne fais pas de mesure en B, où je fais la mesure un peu après. Comme elles sont simultanées dans le laboratoire, le fait que je dise qu'elles sont un peu après n'a pas de sens relativiste. Donc la question de savoir qui fait la mesure avant dépend si vous regardez le système dans le laboratoire ou dans un train qui va à grande vitesse dans un sens ou l'autre.
Ça c'est une petite parenthèse, mais disons, imaginons que vous ne faites pas la mesure en B. Vous prenez l'état, vous faites la mesure en A et vous changez l'état en B.
Changez l'état en B. Et vous le changez instantanément et à distance. Et comme je dis, vous obtenez alors, et si vous mesurez évidemment après l'état en B, vous posez la même question, si vous faites la mesure dans 1, vous aurez toujours une parfaite anticorrélation. D'accord ? Alors reprenons la question posée à propos des boîtes, est-ce que l'état est physique ou épistémique? S'il est physique, c'est non local, puisqu'on a changé non localement. On n'a rien fait en B. Imaginez que vous ne faites rien en B, vous faites la mesure en A. Vous changez l'état en B, mais l'état en B, il est là en B, donc vous changez quelque chose non localement. Évidemment, s'il est épistémique, ce n'est pas un problème, parce qu'il est épistémique, ça veut dire qu'en fait, il y a des propriétés préexistantes, des variables dites cachées, qui déterminent les réponses en A et B, up et down, etc. Et s'il est épistémique, ça veut dire que la mécanique est incomplète, qu'il existe des variables cachées, qui compléteraient la description quantique, et qui ici déterminerait si la particule en B est un up ou un down, deux up ou deux down, trois up ou trois down. Si elle a ces propriétés-là, alors évidemment, en regardant en A, on a une superposition, donc on ne peut pas prédire ce qui sera le cas, mais si on sait ce qui se passe en A, on sait que c'est l'opposé en B, parce qu'elles sont anticorrélées, si les variables préexistent, mais si elles ne préexistent pas. Si elles ne préexistent pas, comment vous expliquez que les choses changent en B? Et ce que montre Bell, c'est que la simple existence, la supposition de l'existence de ces propriétés mène à des contradictions. Et c'est ça le problème. Alors, pour les experts, mais je ne veux pas passer trop de temps, mais je veux quand même expliquer pourquoi j'ai pris trois questions. D'où vient le quart? Si vous calculez dans l'état psi, qui est l'état décrit ici, l'état là, si vous prenez l'état psi et vous calculez maintenant la valeur moyenne dans cet état, donc là j'explique pour les du produit tensoriel, si vous voulez, de sigma A, la particule, le sigma dans la direction A pour la particule qui se trouve en grand A dans la direction B ou en particule en grand B, où A et B sont des vecteurs unitaires dans les directions A, 2, 3, selon lesquels on mesure le spin en A ou en B. Si vous calculez cela, bon, d'abord, on peut remarquer que cette quantité est bilinéaire en AB et invariante sur rotation. Donc, elle est de la forme lambda fois le produit scalaire de AB pour un certain lambda réel. On trouve, en prenant A égale AB, à cause des parfaites anticorrélations, on trouve lambda égale moins 1. Et donc, on a que EAB, c'est le produit scalaire de AB, qui donne moins cos θ, puisque c'est des vecteurs unitaires, où θ est l'angle entre les directions A et B. Ce sont des calculs quantiques standards, et c'est rien de spécial, mais je le rappelle pour les gens qui seraient intéressés. Comme les valeurs préexistantes, dont on suppose qu'elles existent, puisque c'est ça ce qui implique la localité, valent plus ou moins 1, la probabilité que la variable en A soit égale à moins la variable en B est égale à 1 moins, alors ça c'est du calcul, parce que la probabilité des variables prennent deux valeurs, et si vous prenez, donc soit elles sont égales, soit elles ne sont pas égales, et la probabilité qu'elles ne soient pas égales, qu'elles soient opposées, c'est 1 moins l'espérance de cet objet AB, et donc c'est 1 plus cos θ sur 2, et maintenant vous prenez les trois directions, vous prenez θ égale 0 degré, 2 vous prenez 120, et le troisième vous prenez 240, et vous utilisez le fait que le cosinus de chacun vaut moins 1,5, et donc vous obtenez bien un quart pour la probabilité qu'elle soit inégale. D'accord ? Et puis on change les conventions pour respecter mon historique des oui-oui. On dit simplement que quand VA vaut plus 1, on dit oui. En A, si c'est moins 1, on dit non. Mais en B, on prend les conventions inverses, on dit que c'est plus 1 qui vaut non et moins 1 qui vaut oui. Et alors, au lieu d'avoir des anticorrélations parfaites, on a des corrélations parfaites. Mais ça, c'est juste cosmétique. D'accord ? C'est juste pour ne pas dire que quand l'un dit oui, l'autre dit non. Je dis, ils disent tous les deux oui, et j'ai changé seulement les conventions. D'accord ? Ça va ? Donc ça, c'est un calcul quantique standard. Alors, deux slides pour terminer, puis on passe aux questions, et puis à la partie historique, donc pour ceux qui intéressent, à supposer que ça marche, évidemment. Voilà. Pourquoi est-ce que ça ne justifie pas les superstitions ? Qu'est-ce que j'appelle les superstitions ? L'idée d'une action instantanée à distance au sens d'une transmission de message. Mais il y a bien quelque chose qui se passe entre les deux portes. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe, sinon on ne comprend pas parce que les valeurs ne préexistent pas. Et donc le fait de mesurer un côté de l'expérience, de mesurer, a bien un effet sur ce qui se passe sur l'autre expérience. Quel effet exactement ? Ça dépendrait d'une théorie quantique plus précise. Dans la théorie quantique ordinaire, l'effet, c'est qu'on collapse, on réduit la fonction d'onde. Mais quand on ne sait pas ce que c'est que la fonction d'onde, on ne sait pas ce que c'est que l'effet. Mais disons, si vous voulez vous en tenir à l'orthodoxie, vous devez vous rendre compte qu'il n'y a que la fonction d'onde, et la fonction d'onde est réduite, et cette réduction est non locale, instantanée, à distance, etc. Donc, moi, je n'ai rien rajouté. J'ai simplement dit, si vous voulez sauver la localité, vous pouvez imaginer qu'il y a des variables cachées qui complètent l'état, ce qui est anathème en mécanique quantique ordinaire, mais qui rendrait compte de la... permettrait de sauver la localité, mais cette possibilité ne marche pas. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous regardez les expériences où il y a des lumières rouges et vertes au lieu des réponses oui et non, chaque côté observe une suite parfaitement aléatoire de lumières rouges vertes, quelle que soit l'expérience faite de l'autre côté. Alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans mon protocole, parce que j'avais dit, vous pouvez donner tout le temps la réponse oui, si vous voulez, mais dans les expériences quantiques qu'on a vues ici, les réponses sont moitié-moitié oui et non, et chacun des côtés voit une suite, quelles que soient les expériences qu'il fait, il voit une suite parfaitement aléatoire de oui et de non. Quelles que soient les expériences faites de l'autre côté. Mais évidemment, quand ils se mettent ensemble, ils voient qu'elles sont corrélées. Mais les oui-non sont aléatoires des deux côtés, mais ils sont corrélés. C'est la corrélation qui pose problème. Mais, quel que soit, si la personne à droite veut m'envoyer un message, il n'y a aucun moyen de choisir les directions 1, 2, 3 pour m'envoyer un message. Ce n'est pas comme dans le cas où le vaudou, par exemple, je pique une aiguille et la personne est touchée, ou je ne pique pas d'aiguille, la personne ne ressent rien. Ça, sont des choses, ça c'est un envoi de message, vous comprenez ?
Et donc, aucun message ne peut être transmis à cause de cela. Mais si chaque personne dit à l'autre quelle expérience elle a faite, ou plus simplement, si elles font tout le temps la même expérience, qui est aussi possible, alors elles ont toutes les deux quel résultat a été obtenu de l'autre côté, quand la même expérience est faite des deux côtés, donc elles ont alors une suite commune de rouge et de vert, ou de oui et de non, c'est-à-dire qu'une certaine information a bien été transmise
plus vite que la lumière. Parce qu'il y a une forme d'information qui a été transmise, puisque, évidemment, elles doivent se voir après et dire, mais mettons, qu'elles disent qu'on va toujours poser la même question. On fait 1 000 000 fois l'expérience, et elles ont un code commun de oui et de non. Mais comment se fait-il qu'elles aient un code commun de oui et de non alors qu'elles ne sont pas communiquées ? Elles ont une information, parce que moi j'ai mon code de oui et de non, l'autre a son code de oui et de non, qui est aléatoire, et que je peux utiliser pour crypter des messages. Et c'est la base de la cryptographie quantique. Donc tous les gens qui utilisent la cryptographie quantique, en fait, maintenant, c'est pour ça que les idées de non-localité commencent à percer. C'est un peu dommage que ça vienne par ce biais, disons parce que c'est utilisé dans les applications, mais dans les applications, vous ne pouvez pas nier que vous avez transmis une certaine information, parce que l'autre, vous avez une suite commune de oui et de non, sans jamais avoir téléphoné, sans avoir eu de message, rien du tout. Comment expliquer ça ? Vous pourriez dire qu'elle préexiste, ça c'est vrai. Mais on vient de montrer que ce n'était pas le cas. Est-ce que ceci entre en conflit avec la relativité ? Mais bien sûr, c'est bien ça le problème. Avec l'esprit de la relativité. Je ne peux pas envoyer de message, ça c'est vrai, mais n'empêche, il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière dans cette affaire. Or, s'il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière, c'est une causalité qui va plus vite que la lumière, alors vous pouvez avoir une causalité qui va dans le passé, et là, il y a une tension, comme dit Penrose, entre la relativité, il y a un problème qui dépasse un peu le cas de ce cours, dans le sens que je ne peux pas expliquer en détail, mais s'il y a une quelconque action à distance, alors la relativité implique l'existence d'une action sur le passé, ce qui implique un problème si vous voulez formuler des lois physiques causales. Alors, il n'y a aucune solution satisfaisante, à mon avis. Quid de la théorie quantique des champs, de la mécanique quantique relativiste? On va me dire, oui, mais il y a une théorie quantique relativiste, ça c'est vrai. Mais allez prendre un livre de mécanique quantique relativiste et trouvez-moi dans l'index, je ne parle même pas d'un chapitre, dans l'index, des mots comme réduction du paquet d'ondes ou des synonymes de ce genre-là, ou réduction de l'état. Vous ne le trouverez pas. Parce qu'en général, ils ne calculent pas. C'est très comique, mais je ne sais pas si les étudiants se sont rendus compte de ça, mais quand ils ont des cours de mécanique quantique, élémentaire, non relativiste, on leur dit l'axiome c'est la réduction du paquet d'ondes. Et puis quand on fait la théorie quantique des champs, on n'entend plus parler de réduction du paquet d'ondes. Parce qu'on ne sait pas la traiter de façon Lorentz invariante. Elle n'a jamais traité de façon Lorentz invariante. Mais si c'est un axiome de la théorie des champs, des quantiques, et que la théorie quantique des champs est une théorie quantique, alors je ne vois pas pourquoi l'axiome est passé à la poubelle. Or, il y a un problème.
Ça, c'est la façon.
D'accord. Alors, le résumé de tout, c'est que le premier mystère, c'est qu'il y a un rôle apparemment essentiel de la mesure qui, de plus, ne peut pas être comprise de façon naïve comme les autres propriétés préexistantes. Ça, c'est le premier exposé. L'exposé aujourd'hui, c'est qu'appliqué à la situation EPR, cette non-existence de propriétés préexistantes implique que le monde est non local, en ce sens qu'il existe une forme subtile mais réelle d'action instantanée à distance dans la nature. Et c'est pas quelque chose... Vous ne pouvez pas éviter ça parce que c'est lié simplement à des observations empiriques et un raisonnement élémentaire. Ce n'est pas lié à la vérité, même si la mécanique quantique devait être dépassée, c'est-à-dire incorporée, je ne sais pas, dans une théorie des strings ou une théorie plus subtile plus tard. Tant que les expériences n'ont pas été réfutées, je ne sais pas comment faire. Les expériences sont... C'est vrai qu'il y a des trous dans les expériences. Donc on pourrait espérer qu'il y a une conspiration qui fait qu'il y a des particules qui ne sont pas détectées. Alors si jamais celles qui n'ont pas détecté rétablissaient d'autres statistiques, alors la mécanique quantique serait fausse, mais... la localité pourrait être sauvée. Mais pour l'instant, le jury, évidemment, va tout à fait dans ce sens-là. Il existe néanmoins, et ça c'est pour le dernier cours, une théorie de variables dites cachées, qui ne sont pas du tout cachées. Ce sont en fait les seules variables réellement visibles, qui éliminent complètement la référence essentielle dans la mécanique quantique usuelle à l'observateur, qui explique la non-existence des variables cachées, du moins celles dont j'ai parlé à propos de Bell, Kokenspecker ou aujourd'hui. Et dans la mesure où c'est possible, explique aussi la non-localité de l'univers. Je dis dans la mesure où c'est possible, elle l'explique, elle montre d'où elle vient, mais évidemment c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Alors, c'est la dernière question, êtes-vous prêt à écouter? Et la réponse, c'est le troisième mystère, c'est non, bien sûr. La réponse typique quand j'essaie de proposer cette autre théorie que la théorie de Breuil-Bohm, c'est qu'on n'est pas prêt à écouter ou on veut bien écouter en 30 secondes, etc. Mais si vous, venez si vous êtes prêt à écouter, alors la semaine prochaine, vous aurez un exposé détaillé sur cette théorie. Si on parle de... Alors, je vais faire un petit survol historique. Si on parle du Newton, qui est le méchant qui a introduit l'action à distance, d'une certaine façon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas content de sa propre invention, puisqu'il dit qu'un corps puisse agir sur un autre à distance à travers le vide, et sans la médiation de quelque autre corps, ne peut pas être une telle absurdité que je pense qu'aucune personne possédant la faculté de raisonner dans les questions philosophiques ne pourra jamais y croire. Donc, il ne croyait pas à l'action à distance intrinsèque à la loi de Newton, ce qui est un peu intéressant à savoir. Alors, le point de vue d'Einstein, je reviendrai sur le point de vue d'Einstein plus loin, plus en détail, mais il disait ceci, ce qui existe réellement dans un point B ne devrait pas dépendre du type de mesure qui est faite en un autre point A de l'espace, donc les points A et B sont éloignés, ce qui se passe en B ne doit pas dépendre du type de mesure que je fais, ou même du fait que je fasse une mesure ou pas. C'est exactement l'idée de localité. D'accord ? Et c'était ça l'idée. Et d'un point de vue pragmatique, évidemment, pour que la science soit possible, il faut bien que le monde soit un peu local, ce qu'il faisait remarquer Casimir. Si les résultats d'une expérience de la chute libre ici à Amsterdam devaient dépendre de façon appréciable de la température au Mont Blanc, de la hauteur de la Seine à Paris, de la position des planètes, nous n'irions pas très loin. D'accord ? Il faut bien que le monde soit un peu séparable pour qu'on puisse faire des expériences ici sans tenir compte de toutes les variables dans l'univers. C'est d'ailleurs ça ce qui rend la science possible, ou la partie de la science qui est possible, possible. Alors, les réactions au théorème de Bell sont, pour le moins qu'on puisse dire, contrastées. Henri Stapp dit que le théorème de Bell est la plus profonde découverte de la science. Abraham Pice, par contre, dit que la seule partie de cet article, celui de Pierre, qui survivrait, je pense, une phrase. Donc lui, il rejette complètement
l'idée de PR, bien qu'il a fréquenté, donc il a fréquenté Einstein à Princeton, et un anonyme qui est cité par Mermin dit « Quiconque n'est pas préoccupé par le terrain de Bell, l'aura des cailloux dans la tête », ce qui fait évidemment beaucoup de monde. Bon, alors, enfin pas moi, mais et peut-être pas vous après, mais je ne sais pas. Alors ce que Bell a vraiment dit, c'est intéressant, alors je vais vous infliger quelques citations de Bell pour vous montrer vraiment combien il était clair sur ce qu'impliquait sa découverte. D'accord ? Alors on peut dire qu'il avait un gros coup, qu'il se prenait plus important qu'il était, etc., qu'il ne comprenait pas combien sa découverte était peu importante. Mais ce qui est frappant, c'est que personne n'objecte à ce qu'il dit, et les gens énoncent simplement de façon déformée ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment frappant. Moi, je vous assure, quand j'ai lu le livre de Bell, le petit livre Speakable, Unspeakable and Quantum Mechanics, j'ai jamais lu un livre de physique avec une telle fascination. Je l'ai lu pratiquement sans lever les yeux en après-midi, je me vois encore en train de le lire, fasciné de voir qu'à toutes les pages, il dit le contraire de ce qu'on a appris qu'il disait. Et on a même, à une époque, consulté les professeurs d'université belge pour le prix Nobel, et j'ai entendu des gens proposer qu'on lui donne le prix Nobel pour avoir montré ce qu'il n'a pas montré. Ce qui est, en général, ce qu'on croit ce qu'il a montré. L'inexistence de variables cachées. Donc, il dit, laissez-moi résumer une fois de plus le raisonnement qui a mené à l'impasse. Les corrélations EPR-B. Alors, EPR, le B, c'est pas pour Bell, c'est pour Bohm, qui a formulé l'expérience en termes de spin, parce que l'expérience EPR, habituellement, c'est en termes de position et vitesse. Et maintenant, on la discute toujours dans la formulation de Bohm. Sont telles que le résultat de l'expérience d'un côté prédit immédiatement celui de l'autre côté quand les analyseurs sont parallèles, donc quand on pose les mêmes questions. Si nous n'accepterons pas l'idée que selon laquelle l'intervention d'un côté a un effet causal sur l'autre, nous sommes obligés d'admettre que les résultats des deux côtés sont de toute façon déterminés à l'avance, indépendamment de l'intervention d'un côté, par des signaux venant de la source et par les dispositions locales des aimants. C'est-à-dire les aimants, c'est les questions, hein, c'est les points qu'on... Donc on ne peut pas nier que l'intervention d'un côté a une influence causale sur l'autre côté. Bien que j'ai toujours insisté sur le fait que le déterminisme était déduit plutôt que supposé. Le déterminisme voulant dire l'existence de ces variables cachées est déduit de la localité. Il n'est pas supposé. Vous pouvez peut-être soupçonner que le problème vient d'une préoccupation à propos du déterminisme. Notez que l'argument qui suit, ça c'est dans Bergman-Sox, ne mentionne nullement, absolument pas le déterminisme. Vous pouvez peut-être soupçonner que c'est la notion de particule ou d'orbite d'une particule qui nous égare. Aussi, l'argument qui suit ne mentionne pas les particules, ni aucune image de ce qui se passe au niveau microscopique. Il n'utilisera pas non plus l'expression système quantique qui peut avoir un effet déplorable sur la discussion. La difficulté ne provient pas de telles images ou d'une telle terminologie, mais des prédictions concernant les corrélations des résultats visibles d'expériences concevables. Il écrit ça à une époque où les expériences ne sont pas encore faites, et c'est exactement la démarche que j'ai faite aujourd'hui. J'ai parlé de spin, etc. à la fin pour faire le calcul quantique, mais je dis simplement, c'est l'expérience comme vous la voyez dans le dessin. Vous avez un appareil, vous poussez, vous avez des appareils, les trucs qui vont des deux côtés, vous avez des couleurs rouges et vertes, vous mettez les boutons, des couleurs rouges et vertes, vous comparez les résultats, et vous dites comment est-ce que je rencontre de ça de façon locale, il n'y a pas moyen. Alors, encore un, il enfonce encore le clou ailleurs. Le malaise que je ressens vient de ce que les corrélations quantiques parfaites qui sont observées semblent exiger une sorte d'hypothèse génétique des jumeaux identiques qui ont des gènes identiques. Donc, il commence avec cette expérience que vous connaissez peut-être où on prend des jumeaux univités l'un élevés séparément, on les regroupe à l'âge adulte et on voit qu'ils ont toutes sortes de caractéristiques communes. On peut discuter de ça, mais au moins, comme dit Bell, bon, au moins, même s'ils étaient tout à fait identiques, il y aurait l'hypothèse du déterminisme génétique. Pour moi, il est tellement raisonnable de supposer que les photons dans ces expériences comportent avec eux des programmes qui sont corrélés à l'avance et qui dictent leur comportement. Ceci est si rationnel que je pense que quand Einstein a vu cela et que les autres refusaient de le voir, il était l'homme rationnel. Les autres, bien que leur histoire, l'histoire leur ait donné raison, se cachaient la tête dans le sable. Je pense que la supériorité intellectuelle d'Einstein sur Bohr dans ce cas-ci était énorme. Un immense écart entre celui qui voyait clairement ce qui était nécessaire et l'obscurantiste. Aussi pour moi, il est dommage que l'idée d'Einstein ne marche pas. Ce qui est raisonnable ne marche tout simplement pas. Et quand il dit que l'histoire leur a donné raison, c'est compliqué parce que ce n'était pas du tout clair ce qu'ils avaient en tête, on y viendra plus loin. Alors, la non-localité de la mécanique quantique ne peut pas être attribuée à son caractère incomplet, mais d'une certaine façon irréductible. J'ai mis les pages dans le livre. Que la mécanique quantique ordinaire n'est pas localement causale a été montrée en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen. Pour moi, voici le véritable problème de la théorie quantique, le conflit apparemment essentiel entre une formulation précise de cette théorie et la relativité à un niveau fondamental. C'est-à-dire que nous avons une incompatibilité apparente au niveau le plus profond entre les deux piliers fondamentaux des théories contemporaines. Donc on pourrait difficilement être plus clair, il dit qu'effectivement le problème de la mécanique quantique, ce n'est pas celui de l'observateur qui sera résolu la semaine prochaine de façon triviale, c'est le problème de cette non-localité qui est incompatible avec la relativité parce que vous avez des actions causales non locales instantanées, alors
elles peuvent aussi aller dans le passé, et ça met en question évidemment la notion de causalité. Alors je vais passer maintenant, donc ça c'est ce que dit Bell, j'espère que c'est clair, qu'il dit exactement ce que j'ai dit dans le premier cours, c'est pour moi qui ai inventé, c'est moi qui suis Bell évidemment, mais je veux dire, je pense que je suis fidèle à l'idée de Bell. Alors maintenant on va voir les incompréhensions, je ne vais pas en donner trop, j'ai encore reçu un article récemment qui fait la même que Jean-Pierre m'a envoyé hier, qui vient de sortir et qui reprend les mêmes incompréhensions, il y en a des tonnes, mais je vais prendre des gens les plus célèbres. Donc Murray Gell-Mann, qui est sûrement peut-être, le physicien vivant le plus extraordinaire aujourd'hui, le travail théorique de John Bell a montré que le dispositif expérimental de EPRB pouvait être utilisé pour distinguer la mécanique quantique de théories hypothétiques de variables cachées. Après la publication du travail de Bell, plusieurs équipes de physiciens expérimentaux ont réalisé l'expérience. Le résultat fut attendu avec impatience, bien que presque tous les physiciens pariaient sur le caractère correct de la mécanique quantique qui était en fait justifié par les résultats. Alors ça, c'était pas très choquant, mais tous les commentaires disent toujours « Bell a montré l'inexistence de variables cachées locales ». Mais on oublie que dans l'argument EPR, on montre que la localité implique l'existence de ces variables cachées. C'est là, si vous voulez, c'est tout à fait juste ce qu'on oublie. Au résumé, c'est ça. Ça, c'est Bell. Et il y a ça, et Bell sait ça, et parle, et on conclut ça. Les gens, si vous prenez ça, il n'y a pas de variable cachée, on s'en fiche. On sait que la variable cachée, c'est un gros mot. Et ça, c'est le raisonnement général. Puisque EPR a été réfuté, et on ne sait pas très bien ce qu'il a dit de toute façon, on oublie la partie, sa combinaison des deux propositions qui est importante, plus le fait que mécanique quantique, c'est des guillemets, ce sont des faits expérimentaux. Gell-Mann est très clair, il reprend l'exemple des chaussettes de M. Bertmann, et il dit... La situation est comme celle des chaussettes de M. Bertmann décrite par John Bell. Bertmann est un mathématicien, je ne crois pas que c'est un mathématicien, mais bon, qui porte une chaussette rose et une chaussette verte. Bien que, peut-être c'est plus plausible si c'est un mathématicien qui a des chaussettes de couleurs différentes, mais si vous voyez seulement un de ses pieds et vous voyez une chaussette verte, vous savez immédiatement que la chaussette sur l'autre pied est rose. On peut difficilement comprendre plus mal. Parce que le problème, c'est qu'évidemment, les couleurs sont créées par la mesure dans la version quantique. C'est évidemment, s'il y a une chaussette verte et l'autre rose, vous apprenez, c'est exactement... Comme l'histoire, je dis, vous prenez les chaussettes, vous envoyez une chaussette à droite et une chaussette gauche à deux endroits distincts, vous voyez, vous prenez deux gants, vous prenez une photo, vous coupez en deux, etc. Une personne ouvre une enveloppe, voit un résultat, il sait que l'autre a l'autre résultat, il n'y a rien de mystérieux, parce que les propriétés préexistent à l'observation. Mais si elles sont créées par l'observation, elles sont créées de façon non locale. Aucun signal ne passe d'un pied à l'autre, de même aucun signal ne passe d'un photon à l'autre, parce qu'en général les expériences sont faites avec des photons plutôt que des électrons, mais bon, à l'autre, dans l'expérience qui confirme la mécanique quantique, aucune action à distance n'a lieu. C'est difficile de comprendre plus mal, parce qu'évidemment c'est vrai qu'aucun signal, mais l'action à distance n'est pas liée seulement aux signaux, comme j'ai essayé d'expliquer en faisant la distinction entre les différentes propriétés. Et comme dit Bell, à propos de cette histoire, parce qu'il y a une obsession avec l'idée que s'il n'y a pas de signaux qui sont envoyés, des signaux perceptibles par les êtres humains, manipulables par les êtres humains, alors les lois de la nature sont nécessairement locales, ce qui n'est pas vrai. Comme il dit, qui pensons-nous que nous sommes, nous qui pouvons faire des mesures, nous qui pouvons manipuler des champs externes, nous qui pouvons signaler, même si ce n'est pas plus vite que la lumière. Est-ce que le nous inclut les chimistes ou seulement les physiciens? Est-ce que cela inclut les plantes ou seulement les animaux, les calculettes de poche ou les gros ordinateurs? C'est-à-dire que si vous posez la question des lois de la nature, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si les êtres humains peuvent envoyer des signaux? C'est de nouveau un truc super anthropomorphique, d'accord? Si vous voulez formuler une théorie des lois de la nature, bien évidemment, vous vous posez la question, par exemple, de l'invariance relativiste à un niveau plus fondamental que la question simplement des signaux. Alors, un autre exemple d'incompréhension qui est dû à Wigner, qui est aussi un des plus grands physiciens du XXe siècle. Alors, c'est la preuve de von Neumann. Alors, von Neumann avait donné une preuve que je pourrais expliquer, si vous voulez, mais je ne vais pas le faire maintenant, dans son livre de 32 ou 33, je ne sais plus exactement, mais les Grundlagen der Quantenmechanik, qui ont été traduits en anglais en 55 seulement, donc par exemple, Bell ne les a pas lus quand il était jeune, mais il donne un argument pour démontrer qu'on ne peut pas introduire des variables cachées. L'argument est très mauvais, il ne prouve rien de tel, et il n'est pas du tout du type de Kokenspeker, Bell, etc. Cet argument, c'est facile de montrer que les hypothèses sont arbitraires. Et donc Wigner dit, la preuve qu'il a publiée, bien qu'elle ait été rendue plus convaincante plus tard par Kokken et Specker, se base sur des hypothèses qui, à mon avis, peuvent raisonnablement être mises en question. À mon avis, l'argument le plus convaincant qu'on a théorie des variables cachées était présenté par Bell. L'argument montre que toute théorie de variables cachées qui se conforme au postulat de la localité est en conflit avec la mécanique quantique. D'accord ? Donc il montre effectivement que les variables cachées ici, qui sont locales, si vous voulez, sont en conflit avec la mécanique quantique. Ça, c'est juste l'argument Bell.
l'argument et PR, les deux ensemble, en conséquence dramatique. Mon premier article sur le sujet, donc celui où il a inventé l'égalité de Bell, commence, dit Bell, par résumer l'argument de PR, inférant à partir de la localité l'existence de variables cachées déterministes, donc des variables cachées dont on parle. Mais les commentateurs ont presque tous considéré que l'argument partait de variables cachées déterministes, c'est-à-dire exactement le commentaire de Wigner et de Gell-Mann et de Lorenzo, et par conséquent, il a simplement montré que les variables cachées locales n'existaient pas, et ça, tout le monde sait depuis toujours que les variables cachées, c'est un gros mot. Mermin, que j'ai mentionné avec la ligne qui n'est pas là quand personne la regarde, là, un éclair de lucidité, je trouve, il dit, les physiciens contemporains sont divisés en deux classes. Ceux de type 1 sont préoccupés par EPR et Bell, ceux de type 2, la majorité ne le sont pas. Mais on doit distinguer deux sous-classes. Ceux de type 2A expliquent pourquoi cela ne les préoccupe pas. Leurs explications tendent soit à être complètement à côté de la question, comme Born répondant à Einstein, je viendrai à ça dans un moment, la réponse de Born, ou à se baser sur des assertions dont on veut montrer qu'elles sont fausses. Ceux de type 2B ne sont pas préoccupés et refusent de dire pourquoi. Leur position est inattaquable. Il existe une variante du type 2B qui disent que Bohr a arrangé tout cela, mais refuse d'expliquer comment. Néanmoins, le même Mermin écrit « Pour ceux pour qui la non-localité est anathème, le théorème de Bell signifie la mort du programme des variables cachées. » Mais non, parce que justement, le problème du théorème de Bell signifie la non-localité. Parce que vous avez les deux ensemble, comme l'a expliqué Bell dans son premier article. Mais pas pour Bell. Aucun théorème sur l'existence de variables cachées n'a persuadé que les variables cachées étaient impossibles. Ce que le théorème de Bell a suggéré à Bell était que nous devrions réexaminer notre compréhension de la variance Lorentz. Ce qui est exactement la conclusion du raisonnement que j'ai fait. Il y a des sortes d'actions à distance et la variance Lorentz pose un problème. Alors maintenant, je vais revenir sur l'histoire. L'histoire au XXe siècle, donc... Que pensait vraiment Einstein d'abord? Je vais surtout commenter Einstein et les incompréhensions à propos d'Einstein. Parce que je trouve que l'injustice qu'on fait à Einstein est absolument monstrueuse. Donc, ce qu'Einstein écrit en résumant son argument EPR, mais il faut dire aussi, c'est un peu compliqué, mais l'argument EPR, l'article de EPR n'a pas été écrit par Einstein, qui ne maîtrisait pas bien l'anglais, qui a été écrit en anglais essentiellement par les deux autres, par Podolsky et Rosen. L'argument apparemment avait déjà été donné par Einstein à Rosenfeld avant... dans un congrès Solvay, je crois, en 1933. Enfin, je pense qu'Einstein avait l'idée fondamentale, comme il avait d'ailleurs l'idée du chat Schrödinger, mais l'article de 1935 n'est pas... Il y a une complication qui est inutile dans l'article. Mais en 1948, il l'explique très bien. Il dit, si on se demande, indépendamment de la mécanique quantique, ce qui est caractéristique du monde des idées en physique, on est frappé de prime abord par ceci. Les concepts de la physique se réfèrent à un monde extérieur réel. Il est le plus caractéristique que ces objets physiques sont pensés comme étant disposés dans un continuum d'espace-temps. Un aspect essentiel de cette disposition des choses en physique est qu'elles prétendent avoir à un instant donné une existence indépendante les unes des autres, pourvu que les objets soient situés dans les parties différentes de l'espace. De nouveau, c'est l'idée de localité. L'idée suivante caractérise l'indépendance relative des objets éloignés dans l'espace A et B. L'influence externe sur A n'a aucune influence sur B. Je ne doute pas du fait que les physiciens qui considèrent les méthodes descriptives de la mécanique quantique comme un principe définitif réagiraient ainsi à cette façon de penser. Ils abandonneraient l'exigence d'une existence indépendante pour la réalité physique présente dans les différentes parties de l'espace. Et ils auraient raison de faire remarquer que nulle part la mécanique quantique ne requiert explicitement ce fait. J'admets cela, mais je soulignerai ceci. Quand je considère les phénomènes physiques qui me sont connus, et particulièrement ceux qui sont incorporés avec succès dans la mécanique quantique, je ne trouve nulle part de fait qui rendrait plausible l'abandon de cette exigence. Je suis par conséquent enclin à croire que la description de la mécanique quantique doit être vue comme une description incomplète et indirecte de la réalité qui devrait être remplacée à une époque future par une description plus complète et plus directe. C'est-à-dire, il dit, je ne vois pas, je pense que la localité est vraie, c'est vrai que la mécanique quantique est d'une certaine façon non locale, mais moi je pense que des variables cachées qui pourraient sauver la localité peuvent exister. Et comme dit Bell, après les expériences d'aspect, après le théorème de Bell, on ne peut pas dire, comme il le dit, je ne trouve nulle part de fait qui rendrait plausible l'abandon de cette exigence. Mais on ne peut pas reprocher à Einstein de ne pas être extra-lucide et de ne pas avoir vu en 1935 des choses qui sont devenues évidentes dans les années 70, évidemment. Donc ça... Alors, l'incompréhension de Born, Born répond à Einstein, dont a parlé Mermin, il dit « Le fond de la différence entre Einstein et moi était l'axiome que les événements se produisant à des endroits différents sont indépendants l'un de l'autre, en ce sens que l'observation de la situation en A ne peut rien nous apprendre sur la situation en B. » C'est-à-dire, Born semble croire que si on prend deux gants, qu'on les met dans des boîtes différentes, on les envoie
l'un à Tokyo, l'autre à New York, on ouvre une des boîtes, on découvre que c'est le gant gauche, et on ne peut pas savoir qu'il y a le gant droit à New York, ça c'est complètement absurde, on ne peut pas croire qu'Einstein était si bête. Et on ne peut pas croire qu'Einstein croyait ce que dit Born. Parce que Einstein ne disait pas qu'on ne pouvait rien apprendre, il disait qu'on ne pouvait pas influencer. Apprendre, c'est l'exemple des chaussettes de M. Bergman, etc. Et comme dit Bell, l'incompréhension était totale. Einstein n'avait aucune difficulté à admettre que les situations des endroits différents soient corrélées. Ce qu'il n'acceptait pas, c'est que l'action en un endroit puisse influencer immédiatement la situation en un autre endroit. Ces références à Born n'ont pas pour but de diminuer une des figures majeures de la physique moderne. Elles veulent illustrer la difficulté qu'il y a à mettre de côté ses préjugés et à écouter ce qui est réellement dit et à vous encourager, vous, chers auditeurs, à écouter un peu mieux. Et donc, il souligne toujours que le fait que même il l'a beau répéter tant qu'il veut. Et Pauline, qui était dans l'école de Copenhague, qui était, si vous voulez, du même côté que Born, mais qui était irrité par l'incompréhension que Born avait d'Einstein, il dit que dans une lettre à Born, il dit « J'étais incapable de reconnaître Einstein quand vous parliez de lui dans vos lettres ou votre manuscrit. Il me semble que vous avez érigé pour vous-même un Einstein en carton-pâte que vous abattez ensuite en grande pompe. En particulier, Einstein ne considère pas le concept de déterminisme comme aussi fondamental qu'on ne le pense fréquemment, comme il l'a dit à plusieurs fois avec emphase. Il conteste l'affirmation sur laquelle il utilise comme critère d'admissibilité d'une théorie, est-elle rigoureusement déterministe. Il n'était pas fâché contre vous, mais a dit seulement que vous étiez quelqu'un qui n'écoutait pas. » Et donc, ça c'est souligné encore, ce truc qui est sans arrêt répété que Einstein a dit que Dieu ne jouait pas au dé, il a dit ça une fois dans une lettre à Born, ça c'est vrai, au début des affaires sur la mécanique quantique, mais dès 27, sa préoccupation c'était la non-localité évidente de la mécanique quantique. C'était ça la préoccupation d'Einstein. Alors, venons-en maintenant à la grande réponse de Bohr à EPR. Donc l'article EPR apparaît en 1935. Bohr le reçoit. Il est apparemment dans un état de surexcitation. Il passe une semaine à dicter un article, il réécrit, etc. Et puis, il publie, avec plus ou moins le même titre, une réponse. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans le grand livre rouge, comme on appelle ça, le livre de Zurek et Wheeler, qui reprend tous les textes classiques sur la mécanique quantique, l'article de Bohr, il y a des pages qui manquent, et apparemment, les gens ne s'en sont pas rendus compte avant assez longtemps que l'article était mal publié, mais en général, il est considéré comme étant... Alors, une analyse de cet article est faite par Bell, je vais en donner des extraits, de façon très précise dans l'appendice de Bertrand Sox. Je crois, enfin, dans son... Alors, il dit, alors ce que disait EPR, c'est si sans perturber d'aucune façon un système, on peut prédire avec certitude la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de la réalité physique qui correspond à cette quantité physique. Ça, c'est l'idée. Donc, vous faites une mesure en A, vous savez immédiatement ce qui se passe en B, mais il y avait quelque chose en B qui déterminait la situation, parce qu'on ne peut pas agir sur B instantanément. C'est comme les chaussettes, vous avez une chaussette rouge, une chaussette verte, et les couleurs préexistent. Ça, c'est ce que dit EPR. Alors, ce que dit Bohr en réponse, c'est l'énoncé du critère ci-dessus contient une ambiguïté en ce qui concerne l'expression sans perturber d'aucune façon un système. Bien sûr, dans le cas considéré, il n'est pas question d'une perturbation mécanique du système analysé durant la dernière étape critique du processus de mesure. Mais même à cette étape, il y a essentiellement la question de l'influence sur les conditions mêmes qui définissent les types possibles de prédictions concernant le comportement futur du système. Leur argumentation ne justifie pas la conclusion selon laquelle la description quantique est essentiellement incomplète. Cette description peut être caractérisée comme l'utilisation rationnelle de toutes les possibilités d'une interprétation non ambiguë des mesures, compatible avec l'interaction finie et non contrôlable entre les objets et les instruments de mesure dans le champ de la théorie quantique. Alors, si vous comprenez ce que ça veut dire, si vous comprenez en quoi c'est une objection à ce que j'ai dit Einstein ou ce que j'ai dit, vous me l'expliquez. Isabelle Stenger dit la position de Bohr triomphe sur toute la ligne, facilite, parce que le commentaire de Bell, c'est que je ne comprends que très peu ce que cela veut dire. Donc ça, c'est sur le texte que je viens de vous lire. Je ne comprends pas en quel sens le mot mécanique est utilisé pour caractériser les perturbations que Bohr n'envisage pas, par opposition à celles qu'il envisage. Je ne comprends pas ce que le passage en italique signifie, l'influence sur les conditions mêmes. Donc, l'influence sur les conditions mêmes définissant les types, qui définissent les types possibles de prédictions concernant le comportement futur du système. Est-ce que cela veut dire simplement que différentes expériences faites sur le premier système donnent différentes sortes d'informations sur le second? Mais c'était justement un des principaux arguments de PR. De plus, je ne comprends pas la référence finale à l'interaction finie et non contrôlable entre les objets et les instruments de mesure, qui semble justement ignorer le point essentiel de EPR, à savoir que, en l'absence d'action à distance, seul le premier système peut supposément être affecté par la première mesure. De même,
et néanmoins des prédictions bien définies deviennent possibles pour le second système. Est-ce que Bohr rejette simplement la prémisse, pas d'action à distance, plutôt que de réfuter l'argument? Donc EPR, c'est pas d'action à distance, plus l'effet de la mécanique quantique, donc de variables cachées, donc la mécanique quantique est incomplète. La localité, parfaite corrélation. EPR ne parle pas des mesures quand les questions ne sont pas les mêmes, ou quand les questions sont les mêmes. C'est-à-dire, on a par conséquent les variables cachées. Il ne réfute pas l'argument au sens de montrer qu'il y a une invalidité logique. Il récuse peut-être, si on fait une interprétation charitable du texte, la prémisse, la localité. Mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair dans le texte de Bohr. Et les questions que pose Bell sont tout à fait correctes. Alors voilà, je pense que... Bon, je vous ai donné un tout petit aperçu de l'incompréhension à la fois de Pierre et d'Einstein, enfin pas seulement de Pierre et d'Einstein, parce qu'il y a l'article de Pierre qui m'a compris, mais il y a tous les commentaires d'Einstein, toutes les plaintes d'Einstein sur la mécanique quantique, plaintes de Schrödinger aussi, sur la question de la localité, qui tournent toujours autour de cette question de la localité, qui sont massivement ignorées, plus évidemment le pauvre Bell qui, bien qu'il répète tout le temps, comme je l'ai dit, se plaint de ne pas être compris, explique pourquoi il ne l'est pas, etc., comment dirais-je, est massivement incompris. Et donc, peut-être que la solution se trouve en fait dans la littérature. C'est la phrase que j'aime bien citer de Tolstoï. Je sais que la plupart des hommes, même ceux qui sont à l'aise avec les problèmes de la plus haute complexité, peuvent rarement accepter les plus simples et les plus évidentes des vérités. Si les accepter, les forcerait à admettre la fausseté de conclusions qu'ils se sont plus à expliquer à des collègues, qu'ils ont fièrement enseigné à d'autres et qu'ils ont inséré fil après fil dans le tissu de leur vie. Merci.